sa similitude avec les attentats tragiques de Montauban et Toulouse vient entretenir cette souffrance morale des musulmans de France face à l'instrumentalisation insupportable de la religion musulmane par ces terroristes. D'abord, l'image de l'islam est défigurée par ce type d'acte qui se revendique de l'islam. Puis, bien sûr, nous sentons également une grande souffrance quand on voit nos concitoyens juifs visés par ces actes haineux qui risquent de créer, qu'on le veuille ou pas, des sentiments de rejet de part et d'autre. En tout cas, nous faisons tout pour que le dialogue entre musulmans et juifs continue d'une façon sereine. Mais nous devons nous inquiéter. Il faut que les responsables musulmans entament une réflexion profonde et sérieuse sur d'abord les causes de cette radicalisation, comment ces jeunes sombrent et basculent dans cette voie qui les met eux-mêmes dans une situation de perdition, qui crée le désarroi chez leur propre famille et qui inquiète l'ensemble de nos concitoyens.
Donc vous appelez à des états généraux pour comprendre et endiguer ces dérives djihadistes.
Le profil qui se dégage aujourd'hui, ce sont souvent des jeunes qui sont quelquefois en rupture avec leur environnement familial, souvent en échec scolaire, souvent avec des parcours déjà de délinquance. Et c'est vrai que les imams, les aumôniers, avec d'autres évidemment, des anthropologues, des sociologues, des personnes même en charge de la petite enfance, qui puissent se mettre autour d'une table pour chercher ensemble les faisceaux d'indices qui permettent quelque part de décrire les quelques signaux d'alerte est aujourd'hui important. Qu'on entame déjà cette réflexion, qu'il y ait une sorte de fiche qui pourrait sortir de ces débats, de ces réflexions, il faut qu'on commence déjà à réfléchir sur les solutions à apporter. C'est cette étude et cette réflexion qu'on n'a pas encore fait sérieusement.
Que ce soit Mehdi Nemmouche ou Mohamed Merah, on parle d'un basculement, d'une dérive djihadiste qui se serait faite en prison. Il existe aujourd'hui 152 aumôniers musulmans en prison pour 191 établissements pénitentiaires. Est-ce que ces aumôniers se rendent compte de cette radicalisation dont on parle ?
Alors, lorsqu'on interroge les aumôniers, qui sont certainement en nombre insuffisant, pas souvent formés, pour déceler ces faisceaux d'indices de radicalisme, souvent ils n'ont pas forcément les outils nécessaires pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. Souvent c'est des aumôniers qui ont été formés vraiment de base, qui leur permet d'accompagner les prisonniers qui demandent un accompagnement spirituel ou quelquefois diriger des prières au sein des prisons. Il y a évidemment des chefs ou des pseudo-chefs qui se manifestent dans les prisons et qui présente un certain nombre d'indices de radicalité en termes de pratiques extrêmes ou quelquefois de prosélytisme à outrance. C'est des cas très isolés, mais souvent la radicalité ne se fait pas forcément de cette manière-là. C'est là où je pense que la formation des aumôniers, des imams, face à ce nouveau phénomène, qu'ils ne le connaissent pas forcément, est une nécessité absolue aujourd'hui.
Mais alors, selon vous, où est-ce qu'elle se fait, cette radicalisation ?
Au niveau éducation, nous pensons que lorsque le jeune est encore, n'a pas encore basculé, il y a toujours la possibilité, avec des discussions, avec un encadrement religieux suffisant, parce que, il faut le dire, lorsqu'il y a une absence de formation offerte, le jeune, il va aller chercher la formation là où il peut la trouver. Malheureusement, aujourd'hui, la toile, l'Internet présente un outil facile, accessible à tous, à l'écart de tout moyen de contrôle, et c'est là où le jeune peut basculer facilement. Et c'est pour ça que je dis que dans ce vide de formation, quelquefois il y a des jeunes qui veulent se former dans leur... Ils ont un besoin de spiritualité, un besoin de connaître leur religion, et si les imams ou les aumôniers ou les institutions religieuses d'une façon générale ne leur permettent pas d'avoir cette formation saine et transparente, ils vont aller la chercher ailleurs. Et lorsqu'ils vont aller la chercher ailleurs, ils tombent malheureusement dans les pièges des prédateurs de la toile Internet.
Est-ce qu'il y a des familles qui vous alertent dans les différentes mosquées, qui alertent les imams quand ils ont un proche comme ça qu'ils voient partir à la dérive ?
Malheureusement, c'est rare où des familles se pensent à aller voir un imam ou un cadre religieux, une institution religieuse pour leur exposer leurs propres problèmes, parce que souvent ces jeunes qui sont en rupture avec leurs parents, même vis-à-vis des institutions religieuses, ne vient pas forcément à l'esprit des familles que ces jeunes sont endoctrinés par des personnes religieuses. Souvent, ils le découvrent tardivement. Le jeune déjà, il a basculé ou il est déjà parti dans la voie du terrorisme. Donc c'est pour cela que nous, on lance un appel aux responsables musulmans d'aller vers ces familles. Si ces familles ne peuvent pas venir vers les institutions à temps voulu, il faudrait que les responsables musulmans pensent et réfléchissent sérieusement sur les moyens d'apporter ce soutien à ces familles. Il ne faut pas qu'ils attendent que ces familles se manifestent. Si nous avons des imams bien formés et que l'institution religieuse rassure la population et que les familles sentent le besoin ou même, je dirais, l'assurance d'aller voir un imam bien formé parce qu'ils vont trouver chez lui une bonne écoute, un bon conseil, je pense que ça pourrait changer les choses.